Okapi. Le journal Thérèse Bassoubi.
Okapi. Au Nord Kivu, des combats entre les FRDC et les troupes du CNDP sont encore signalés à Ntamungenga, localité en territoire de Rutshuru ce matin. Chacune des parties belligérantes se renvoie à la balle concernant l'initiative des combats. Le gouverneur du Nord Kivu annonce le retrait des troupes FRDC de Tongo sur ordre du chef de l'État. Les femmes rurales sont à l'honneur ce mercredi 15 octobre. La journée a pour thème changement climatique. Les femmes rurales apportent des solutions. Au Sud Kivu, comme nous le suivrons dans ce journal, l'insécurité reste un des grands problèmes auxquels elles sont confrontées. Province orientale, lancement officiel hier des travaux de réhabilitation de la route Kisangani-Lubutu. Cette voie routière longue de 252 km relie la province orientale à celle du Maniema et des deux Kivu. Vous suivrez cet élément dans la seconde partie du journal. Bonjour à tous. Le gouverneur du Nord Kivu annonce le retrait unilatéral des FRDC de la localité de Tongo, passée sous contrôle des FRDC mardi après d'âpres combats entre le CNDP, une mesure qui entre dans le cadre de la mise en application du plan de désengagement du programme Amani. La mesure du gouvernement tombe alors que des nouveaux combats ont éclaté ce mercredi matin dans la localité de Ntamungenga, à une vingtaine de kilomètres de Rutshuru centre et de Kiwanja, en territoire de Rutshuru. Des combats entre les FRDC et les troupes du CNDP qui se rejettent mutuellement la responsabilité de l'initiative des combats.
Pour le gouverneur du Nord Kivu, le retrait unilatéral des FARDC du front de Tongo s'inscrit dans l'objectif de faciliter le départ de toutes les troupes sans exception vers le centre de brassage. Retrait des FARDC de Tongo, mais aussi le respect strict du cessez-le-feu annoncé par le gouvernement de la République, Julien Paluku Kaunga.
Les mesures suivantes ont été transmises urgemment à l'autorité provinciale. Le retrait unilatéral des forces armées de la République démocratique du Congo, de Tongo, en territoire de Rutshuru, dans le cadre de la consolidation du cessez-le-feu. Deux, l'engagement de la MONUC de réoccuper toutes les positions tenues auparavant par les FRDC, afin de sécuriser les populations en détresse. Et trois, la réaffirmation du cessez-le-feu annoncé par le ministère de la Défense nationale.
Sur le front, le colonel Kaimbi, commandant des opérations militaires des FARDC sur l'axe Rutshuru, avait annoncé ce mercredi matin sur la radio officielle locale, la RTNC, que les troupes des FARDC basées en Ntamungenga ont été attaquées dès 5h du matin par le CNDP. Bertrand Bissimwa, porte-parole du CNDP, confirme la reprise des combats. De son côté, la MONUC a confirmé les combats de ce matin en Ntamungenga, des combats qui continuent à l'heure qu'il est. Les FARDC et le CNDP utilisent des armes lourdes et de longue portée. Aucun bilan n'est encore disponible pour l'instant. Sur un autre plan, nous n'avons aucun bilan pour l'instant sur le front de Nyanzale, situé à 50 km à l'ouest de Rutshuru. Goma, Jules Ngala, Radio Okapi.
Au plan humanitaire, la situation est jugée catastrophique dans la région de Tongo, au Nord Kivu. Plusieurs familles de déplacés ont trouvé refuge devant la base mobile à Tongo pour fuir les violents combats à l'arme lourde enclenchés depuis le début de la semaine. La situation humanitaire des populations vulnérables préoccupe le Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que la MONUC. La MONUC essaye de faire son mieux pour venir en aide à ces personnes. Alain Doss revient ici sur l'intervention de la MONUC hier à Tongo.
Il y a environ 2000 personnes qui sont pour le moment sous la protection des casques bleus de la MONUC, donc à Tongo, qui sont dans des conditions évidemment extrêmement difficiles, traumatisées. Les casques bleus ont dû évacuer hier 5 blessés, dont 3 blessés graves. Il y aurait eu des morts à cause des tirs de balles perdues des belligérants qui utilisent des armes lourdes. Il y a eu hier 2 naissances dans le groupe des déplacés. Une troisième naissance a été extrêmement difficile parce que la maman était traumatisée par les tirs. On a dû l'évacuer aussi vers un hôpital. La situation humanitaire et le traumatisme dans lesquels se trouvent les populations de cette région, vraiment, vraiment catastrophique. Les casques bleus font tout ce qu'ils peuvent pour le moment pour apporter leur soutien aux déplacés. Ils ont partagé leurs rations, ils ont apporté des traitements médicaux de première nécessité. Mais 2000 personnes autour d'une base d'une quarantaine de soldats, c'est évidemment énorme.
C'était la Sylvie Van den Windelberg, porte-parole de la MONUC à Goma, au micro de Sifa Maguru. Au Nord Kivu, lancement officiel hier mardi au stade de l'unité de Goma des opérations de patrouille mixte police nationale congolaise et unité de la police de la MONUC. Le coup d'envoi a été donné par le gouverneur du Nord Kivu qui espère que cette situation va réduire sensiblement l'insécurité dans la ville de Goma et sur d'autres axes périphériques. Et puis nous passons dans la province orientale. En Ituri, les FARDC ont récupéré depuis ce mercredi matin les villages de Songolo et de Bavi situés à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Bounia. Ces deux localités se trouvaient depuis environ une semaine entre les mains des miliciens du Front Populaire pour la Justice au Congo, FPJC en sigle. Par contre, ce groupe armé a pris le contrôle de Nyakoundé, un village proche. Ces informations sont confirmées par les autorités militaires et plusieurs autres sources concordantes. Les détails avec Isaac Rémoyopé.
Selon l'officier adjoint chargé des renseignements de la zone opérationnelle de l'Ituri, les militaires des FARDC ont pris d'assaut vers 5h du matin les deux villages. Ces localités ont été récupérées des mains des miliciens vers 7h30 après des violents combats. Selon la même source, les miliciens du FPJC ont fui et se sont attaqués à leur position à Nyakoundé, un village proche. Après la conquête de ces villages, les miliciens ont lancé l'offensive contre les positions des FARDC à Marabo, village situé à 5 km de Nyakoundé. Selon les porte-parole de la Monica Bounia, ces groupes armés ont envahi ces villages avant d'être repoussé par les casques bleus basés sur place. Contacté, l'un des commandants des opérations du FPJC, Relax Obed, affirme que les villages de Songolo et de Bavi demeurent sous leur contrôle, mais les affrontements se poursuivent aux environs de ces localités. Pendant ce temps, des sources à Marabo signalent les déplacements des populations locales vers les localités voisines. D'après le chef de la chefferie de Basili, les habitants des commandes pris de panique s'enfuient également vers la province du Nord Kivu et certains véhicules venant à Bounia ont rebroussé chemin. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Restons en province orientale, plus de 10 000 déplacés installés dans la localité de Bangadi, à 125 km au nord de Dungu, ne peuvent actuellement bénéficier d'une assistance humanitaire en raison de l'inaccessibilité de ce milieu due à la présence des rebelles ougandais dans la région. Ce constat a été établi hier lors d'une rencontre d'évaluation sécuritaire entre l'administrateur du territoire de Dungu et les organisations humanitaires présentes au chef-lieu de cette entité administrative. Les humanitaires en appellent au déploiement rapide des militaires FARDC à l'intérieur de Dungu. Les explications avec Jacques Moukonkolé.
Les déplacés de Bangadi sont venus de plusieurs localités environnantes, notamment Limolo, Napopo et Kana. Cette dernière aurait subi une attaque des LRA la semaine dernière. Selon le président de la société civile locale, des maisons ont été incendiées, provoquant ainsi la fuite des populations de la place vers Bangadi. Pendant ce temps, plusieurs organisations humanitaires sont arrivées à Dungu en vue d'apporter leur assistance aux nombreux déplacés de cette région. Certaines d'entre elles ont commencé à intervenir dans la cité de Dungu, où plus de 6000 déplacés ont été recensés. Ces organisations auraient voulu poursuivre leur intervention à l'intérieur des Dungu, notamment à Bangadi où sont signalés plus de 10 000 déplacés. Cependant, elles ne peuvent le faire en raison de l'insécurité suite aux incursions répétées des LRA dans les villages. Réagissant à cette doléance, les commandants de la 9e région militaire exhortent les humanitaires à prendre contact avec le commandant des FARDC en place à Dungu. D'après le général Jean-Claude Kifoua, son collaborateur est mieux placé pour apprécier des axes actuellement sécurisés pour faire leur travail en attendant la sécurisation totale de la région. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
La RDC compte plus de 2160 victimes des mines, dont 90% sont des civils et plus de 2000 sites minés. Des chiffres qui, selon le Centre de lutte anti-mines des Nations Unies, représentent le sommet de l'iceberg. Ces statistiques ont été révélées hier à l'Assemblée nationale au cours de la présentation du projet de loi portant mise en œuvre de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transport des mines antipersonnelles et sur leur destruction. Un projet de loi jugé recevable à la Chambre basse du Parlement est transmis à la Commission Défense, Sécurité et Surveillance des Frontières. Cette loi adoptée et promulguée permettra à la RDC de bénéficier d'une forte assistance de la communauté internationale dans la lutte contre les mines. Aruna Ouedraogo, directeur du Centre de lutte anti-mine des Nations Unies, joint par Marie-Chantal Lumba, brosse la situation des zones minées en RDC.
Tout ce qui a comme mine antipersonnelle puisse être enlevé, éliminé pour permettre aux populations de ne plus en être victimes et puis deuxièmement de pouvoir vaquer à leurs occupations de survie quotidienne sans peur de ce danger. En tenant compte des chiffres dont nous disposons, c'est-à-dire les informations qui nous sont rapportées par des personnes bénévoles, des ONG travaillant sur le terrain, des observateurs de la MONUC, des agences de la MONUC, ne constituent en fait qu'une infime part de, si vous voulez, de l'ampleur du problème. Vous donnerez l'exemple du district de Tanganyika. Un petit district. Avant l'étude d'évaluation, nous avions une cinquantaine de sites pollués, mais après l'étude, nous sommes arrivés à plus de 500 sites pollués.
La communauté mondiale commémore ce mercredi 15 octobre la journée de la femme rurale. Cette année a pour thème changement climatique. Les femmes rurales apportent des solutions. Le but de la journée mondiale de la femme rurale est de mettre en lumière le rôle des agricultrices dans la lutte contre le réchauffement de la planète. En République démocratique du Congo, des manifestations commémoratives de cette journée sont organisées à Kinshasa et dans certaines villes du pays. Au sud Kivu, plusieurs centaines de femmes rurales se regroupent dans différents territoires de cette province. C'est le cas notamment du territoire de Walungu et de Kabaré, où les acteurs de développement échangent avec elles depuis ce matin. Pour ces femmes, il y a une amélioration progressive dans leurs activités agro-pastorales malgré les multiples problèmes qu'elles continuent à vivre dans leur village, avec au premier rang l'insécurité. Bukavu, Delphine Amuto.
Dans le territoire de Kabaré, plus de 200 femmes sont regroupées depuis ce matin dans le groupement de Kavumu, Irambikatana et Bugobe, où elles discutent de l'agriculture et de l'élevage. Au dire de ces femmes, cette année a connu une forte irrégularité de la pluie qui a réduit la production de leur culture, malgré les efforts d'accompagnement leur apportés par l'association Action pour le développement intégré du Kivu. Parmi ces aides, la distribution des semences. Ces femmes comptent dégager des solutions palliatives aux problèmes liés aux aléas du climat, mais aussi à l'accès et au contrôle de leur terre. À Walungu, près de 100 femmes discutent aussi des problèmes de leur terre, mais aussi et surtout sur les violations de leurs droits. Elles sollicitent ainsi la restauration de la paix pour accéder en toute quiétude aux champs qu'elles ont dû abandonner par peur d'être victimes de viols. Ces femmes rurales s'inquiètent aussi des pratiques en matière d'héritage. Elles demandent à leurs partenaires, Action sociale de développement paysan, de former leurs fils aînés au droit civil afin qu'ils cessent de s'arroger l'entier de l'héritage en cas de décès du père de famille. Bukavu, Delphine Amuto, Radio Okapi.
Okapi. Okapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
La suite du journal avec vous, René Capita. Au Kasaï oriental, le bureau de représentation provinciale de la Commission électorale indépendante est sommé de libérer ses bureaux.
Ce bâtiment qui appartenait à la Banque de commerce extérieur a été vendu récemment par son propriétaire. Le coordonnateur de la CI au Kasaï oriental, Hubert Chiswaka, a déclaré hier mardi qu'il a déjà saisi sa hiérarchie ainsi que les autorités provinciales de cette situation. Notons que cette situation survient au moment où le bureau provincial de la CI travaille d'arrache-pied pour les préparatifs des prochaines élections locales et municipales.
Province orientale, lancement officiel hier des travaux de réhabilitation de la route Kisangani-Lubutu. Cette voie routière longue de 252 km relie la province orientale à celle du Maniema et des deux Kivu.
Les travaux sur cet axe sont financés par l'Union européenne à hauteur de 10 millions de dollars. Le coût d'envoi officiel des travaux a été donné conjointement par le gouverneur de la province orientale et l'ambassadeur chef de la délégation de la Commission européenne en RDC en visite officielle à Kisangani, Dorcas Kankou.
Les travaux de ces projets seront exécutés par l'UNOPS. Selon le directeur national de l'UNOPS, il sera question d'une réhabilitation effective d'ici la fin de l'année prochaine de 231 km sur un total de 252 qui sépare Kisangani de Lubutu. Jean-Michel, directeur de l'UNOPS.
C'est une réhabilitation mécanisée. Nous avons pour cela sous-traité les gros travaux à une entreprise locale sur certaines parties qui ont été bitumées auparavant et peuvent être rattrapées avec un peu de bitumage. Donc environ 5 à 7 km au total seront bitumés. Le reste, ce sera une route en terre, mais de standard de route nationale.
Cette œuvre doit être pérennisée, estime le vice-gouverneur de province lors du lancement officiel de travaux. Pour cela, Joseph Bangakia affirme que cela est garanti par la mise en place de la régie des travaux publics de la province orientale ainsi que l'acquisition des engins lourds par le gouvernement provincial. Tout en se réjouissant de ces travaux, l'ambassadeur chef de délégation de la Commission européenne en RDC a confirmé que l'Union européenne, à travers sa délégation de Kinshasa, a fait un don de 7 700 000 euros à la RDC pour ce projet dont les retombées économiques sont indéniables.
Dans la capitale de la RDC, grève des enseignants du réseau catholique. Le comité scolaire des écoles conventionnées et catholiques appelle à la reprise des cours.
Dans une déclaration faite hier à Kinshasa, les parents d'élèves recommandent au gouvernement de relancer les négociations avec les enseignants pour trouver un modus vivendi. Ils demandent par ailleurs à l'archevêque de Kinshasa de revoir avec eux l'application des mesures concernant les fonds de solidarité sociale qu'il a créés.
Ouf de soulagement pour les opérateurs économiques de la ville de Kindu au Maniema.
Le prix des fret de marchandises en provenance de Kinshasa vient d'être revu à la baisse. C'est suite au début des activités du cargo de la nouvelle compagnie aérienne Transair sur cette ligne. Le prix du fret d'un kilo varie maintenant entre 1,6$ pour les agences et 1,8$ pour les particuliers. Dieudonné Toumba Mobilé.
Plusieurs agences apprécient ces changements qui interviennent sur la tarification du prix des fret en provenance de Kinshasa. Car avec l'interdiction de la circulation des appareils Antonov par le gouvernement congolais, d'autres compagnies faisaient supporter aux opérateurs économiques les coûts du fret d'un kilo de marchandises à $2 américains, ce qui a occasionné une hausse vertigineuse des prix des produits manufacturés en provenance de Kinshasa. Les cargos de cette nouvelle compagnie a déjà fait 3 rotations avec 120 tonnes de marchandises. Signalons qu'elle est exemptée des paiements des taxes pendant 3 mois par les autorités provinciales. C'est pour désenclaver la province et alléger tant soit peu la misère de la population que cette mesure de clémence temporaire a été prise. Par ailleurs, les habitants interpellent les commerçants de la place à revoir également à la baisse les prix des marchandises sur les marchés avec la diminution de ses coûts de fret. De Kindu, de Donné Toumba Mobile, Radio Okapi.
Parlons culture pour clore ce journal. L'artiste peintre Bafouloulou Lipondo expose au Centre culturel français de Kinshasa.
À l'entrée de la petite halle de la Gombe, on peut voir des tableaux sur les murs le long du couloir. Ces peintures décrivent des enfants souriants en train de jouer et d'autres en train de courir. Selon l'artiste, le sourire des enfants exprime un message de paix et de joie. À travers ces toiles, Bafouloulou tente de décrire et de se souvenir de son enfance.
Ainsi s'achève ce journal. Il a été coordonné par Emmanuel Imbanda et Martin Sebujangwe. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet www.radiocapi.net. Au Capi.